Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro, qui est heureux de vous retrouver et de vous rappeler que vous êtes dans 24 notes secondes, une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore, musicale, pertinente ou un peu moins, les petites images qui bougent sur les petits, les grands écrans, etc., etc., depuis un bon siècle, mais bien tassé le siècle. Je vous rappellerai aussi, je ne le fais pas à chaque fois, mais ben, aujourd'hui je vais le faire, voilà, que notre générique est une musique de film, bien évidemment, celle d'un film de Blake Edwards tourné quelque part en 1962. Ça s'appelait « Diamant sur canapé » en français, « Breakfast at Tiffany's » in English. Les principaux interprètes en étaient Audrey Byrne et George Pipper. De la musique, eh bien, elle était signée du regretté Henry Mancini. Et ce Moon River fit à l'époque le tour du monde et lui valut même un Oscar. Ce jour, dans 24 notes secondes, nous allons rester de ce côté-ci de l'Atlantique, puisque nous allons évoquer la carrière d'un artiste et réalisateur anglais, Peter Greenaway, né en avril 1942 au Pays de Galles. Donc, les esprits chagrins diront avec justesse qu'il est gallois et non pas anglais, mais ma foi, on va faire un petit mixte de tout ça. Peter Greenaway, qui, avant d'en arriver à la réalisation de longs métrages, eh bien, avait déjà une longue carrière d'exposition, de films expérimentaux, d'installations et surtout de peintres, puisque le gars était et est toujours un peintre réputé, en tout cas dans certains milieux. En 1980, il tourne son premier film, donc à l'âge de 38 ans, si vous avez bien calculé, The Falls, duquel, je l'avoue, j'ignore tout, mais c'est en 1982 qu'il connaîtra un premier grand succès avec un film tout à fait remarqué et justement remarquable. En anglais, ça s'appelle The Jawsman Contact. En français, ça s'appelait, et le titre français pour une fois était fort judicieux, Meurtre dans un jardin anglais. Un titre tout à fait sophistiqué et très réussi. Une histoire assez compliquée qui se passe dans la haute société aristocratique des gentleman farmers anglais quelque part au XVIIe siècle. Une histoire de meurtre, comme le titre français le laisse sous-entendre. Alors on en redira deux mots, mais j'ai déjà été assez bavard. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée de Michael Nyman. Alors Michael Nyman, c'est un nom que vous allez beaucoup, beaucoup entendre au cours de cette émission, puisque c'est le compositeur attitré de Peter Greenaway. A priori, il a fait la musique de l'ensemble de ses longs métrages. Il y a comme ça des compagnonnages. On évoquait Henry Mancini et Blake Edwards. C'est bien maintenant. On évoquera Peter Greenaway et Michael Nyman, Meurtre dans un jardin anglais dans 24 notes. Thank you. Quelque part entre Handel et Wendy Carlos, le compositeur de la musique d'Orange Mécanique, un extrait étonnant de la bande originale de Meurtre dans un jardin anglais, une musique de Michael Nyman. Alors, voilà, un compositeur à l'image du réalisateur auquel nous consacrons l'émission de ce jour de 24 notes secondes, Peter Greenaway, qui réussit ce mélange étonnant entre la musique baroque et puis des inspirations beaucoup plus contemporaines, en tout cas contemporaines des années 80 pour un film... Je l'ai dit en anglais, Jossman Contract, pardonnez-moi, en gros, c'est-à-dire le contrat du dessinateur, puisque, en fait, sans m'étendre plus avant sur l'argument, eh bien, dans le film, on voit une jeune femme proposer à un dessinateur qui vient dessiner la bonne société anglaise, eh bien, de lui octroyer ses charmes contre une douzaine de dessins, ma foi, évidemment. Le garçon n'hésite pas, mais comme souvent dans les films de Peter Greenaway, ça finit assez mal. On évoqua à l'époque le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, cité à propos d'Orange Mécanique, Barry Lyndon. Pourtant, l'esprit est très différent, même s'il y a la même causticité chez Kubrick, adaptant Sacré, et chez Peter Greenaway, écrivant le scénario lui-même de Meurtre dans un jardin anglais. Par contre, l'inspiration de Peter Greenaway est beaucoup plus iconoclaste, beaucoup plus baroque, comme je l'ai déjà cité, beaucoup plus inquiétante, en fait, que celle de Stanley Kubrick, comme le prouva d'ailleurs le film qu'il réalisa après le succès considérable de The Jossman Contract. Ça s'appelle toujours, d'ailleurs, Zoho. Mais alors là, avec toutes les subtilités que vous pourrez voir, effectivement, il y est question de Zoho, mais par contre le titre anglais c'est A Z and Two Notes, c'est-à-dire un Z et deux O, et non pas zéro, enfin bref, je pense que vous avez suivi, puisque Z c'est le nom de l'héroïne de ce film, et O, eh bien ce sont deux personnages, Oswald et Oliver, qui sont des zoologues et qui font des expériences photographiques sur la décomposition de cadavres d'animaux. Je vous espère tout à fait dans l'ambiance. Et effectivement, elle était un peu morbide dans ce film de Peter Greenaway, qui déclarait dans une interview à l'occasion de la sortie du film « Il me semble que les films qui parlent de la mort se contentent la plupart du temps d'euphémismes ». Il faut bien reconnaître que d'euphémisme, il y en avait assez peu dans un Z et deux zéros, et que l'ensemble était parfois un peu éprouvant à suivre. Mais visuellement, c'était très réussi, puisque Peter Greenaway n'a pas oublié qu'il était peintre au départ. Et en fait, la scénographie et la photographie du film sont basées sur 26 toiles de Vermeer, c'est-à-dire quasiment l'ensemble de la production brève de Vermeer. 26 toiles de Vermeer qui sont autant de motifs utilisés pour raconter l'histoire de Zoho, avec évidemment une approximation visuelle, comme le disait de façon un peu abrupte Peter Greenaway. Je suis sûr que si Vermeer vivait aujourd'hui, il serait chef opérateur. Ma foi, on ne le saura pas, ça fait partie de ces fameuses expériences de pensée, mais en tout cas, le résultat était assez étonnant. Et on citera du coup le directeur de la photographie, le grand Sacha Vierny, et Andrea Ferréol ici, qui jouait le principal rôle. Voilà, on va écouter un extrait de la bande originale. Si vous avez suivi le début, vous savez qu'elle est de Michael Nyman, c'est bien, vous suivez. Un Z et deux zéros, mais 24 notes secondes. Thank you. Oops. Oops. Ben oui, ça finit un peu abruptement. Le violon diabolique de Michael Nyman pour un extrait de la bande originale de Zoho, 1Z et 2-0. Maintenant, vous le savez, vous pourrez même poser dans les salons. Si tant est qu'on se souvienne de Peter Greenaway dans les salons, puisqu'il faut bien reconnaître qu'après une sorte d'épiphanie dans les années 90, à la suite du succès d'un meurtre dans un jardin anglais qui lui permit de tourner un certain nombre de films, eh bien, Peter Greenaway, non pas arrêté de travailler, mais est retourné peut-être à des projets plus expérimentaux, plus dans l'expression plastique que dans l'expression cinématographique, dont on sait qu'elle est fort lourde à mettre en œuvre. Ben, ça coûte cher, ces petites choses, même quand les films sont relativement expérimentaux. Restons-en donc à cette épiphanie. On va maintenant écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1987, avec à nouveau Sacha Vierny à la photographie. Un film intitulé « Le ventre de l'architecte ». L'architecte en question, eh bien, c'est Louis Boulet, Étienne Louis Boulet, pardon, un architecte français né à Paris en 1728 et mort en 1799, c'est-à-dire que l'homme est né sous l'Ancien Régime et mort sous la dictature, on va appeler ça comme ça, de Napoléon, mais qu'il aura épousé entre-temps, eh bien, les idéaux de la Révolution, notamment ceux de Saint-Just, Danton et mon cher Robespierre. Oui, je sais, mon cher Robespierre. La caractéristique d'Étienne Louis Boulet, c'est qu'il aura fait beaucoup d'esquisses, beaucoup de travaux théoriques, mais que finalement, il aura construit assez peu, ce qui pour un architecte est un peu paradoxal. Et donc, le film raconte l'organisation d'une exposition autour d'Étienne Louis Boulet, quelque part à Rome. Et l'un des sels de la chose, c'est que l'interprète principal, dont le nom du personnage, je vous le cite, s'appelle Stourlet Cracklit, je vous le cite comme tel, là encore il a dû sortir de l'imagination telle quelle de Peter Greenaway, eh bien l'interprète de ce personnage n'est autre que Brian Dennehy, un acteur dont on se souviendra sans doute qu'il avait été quelques années plus tôt, en 1982 d'ailleurs, si je me souviens bien, le vilain shérif de Rambo, celui qui faisait du mal à Rambo et qui à la fin comprenait que finalement Rambo, c'était une victime et que donc il fallait le traiter comme une victime. Puis surtout, il fallait appeler le colonel Trotman pour le sauver. Et bien, Brian Dennehy, quelques années plus tard, s'est retrouvé en tête de distribution d'un film beaucoup plus expérimental, une histoire un peu torturée à la Peter Greenaway. À ses côtés, il y avait Chloé Webb, qui depuis n'a pas fait une carrière si fantastique que je me souvienne de son nom, et notre national Lambert Wilson dans le rôle de Caspasian Speckler. Là encore, on fait fort dans les noms de personnages. Bref, de l'anglicisme en Italie. Et pour une fois, j'ai menti, la musique n'était pas signée de Michael Nyman, mais d'un certain Wim Mertens, je vais y arriver, Wim Mertens, c'est dur quand même, on en écoute un extrait. The Belly of an Architect, dans 24 notes, seconde. Thank you. Cette fois, c'est le piano qui est diabolique. Wim Mertens, un extrait de la bande originale du Ventre de l'architecte. Un film de Peter Greenaway, notre héros du jour, tourné en 1987. Dans les années 90, eh bien, Peter Greenaway tourna quasiment un film par an. Et en 1988, donc vous l'avez compris, ce fut Drowning by Numbers. Alors en français, je ne sais pas trop pourquoi. On a appelé ça, comment on a appelé ça ? Triple assassinat dans le Suffolk. Mais en fait, ce titre français, à ma connaissance, il n'a pas été utilisé. Du coup, il faut savourer la saveur du titre original qui, littéralement traduit, dit « noyade par les chiffres ». Alors après, il faut voir le film pour comprendre. L'histoire est un peu tourmentée, mais pour le faire simple, on voit trois jeunes femmes qui sont... les unes et les autres, la fille et la mère, noyer successivement leur mari et faire passer la chose pour une noyade accidentelle auprès du coroner, donc le magistrat de l'époque, contre la vague promesse de chacune d'entre elles successivement de l'épouser, le dit coroner. Et puis à la fin, allez, je spoil, de toute façon, ce n'est pas l'intérêt de l'intrigue policière, à la fin, on les voit noyer, évidemment, le dit coroner, sinon ce n'est pas la peine, donc une histoire assez tourmentée, avec, je dirais, une comptabilité assez mystérieuse. Le film est rythmé justement par les nombres, by numbers, et par les noyades, drowning. C'est simple finalement. Et il vaut beaucoup eh bien, par cette atmosphère si particulière de Michael Nyman qui retrouve ses vieilles obsessions. On a à nouveau des jeux un peu bizarres avec des cadavres d'animaux. On a à nouveau un assistant fossoyeur. Bref, on a à nouveau la mort, le morbide et des atmosphères un peu effrayantes, mais aussi avec... comme une sorte de balancement ou de contraste, ou je ne sais quoi, et bien de charmantes jeunes femmes, toutes plus jolies les unes que les autres, Joan Plowright, Juliette Stevenson et Joely Richardson, qui interprètent successivement le même, sinon le même personnage, du moins le personnage a le même nom. Après, allez comprendre, c'est pas trop l'esprit de Peter Greenaway, de toute façon, de comprendre le scénario de ces films. La photographie, elle est à nouveau signée de Sacha Viarny. J'ai oublié de le dire, me semble-t-il. Il avait déjà signé la photographie du Ventre de l'architecte, comme il avait signé avant celle de Zoho. Et la musique, eh bien, on y retrouve notre cher Michael Nyman. Michael Nyman, je le cite comme ça, puisqu'il est quand même beaucoup plus connu pour ça. Eh bien, ce fut le compositeur de la musique de la fameuse Leçon de piano de Jane Campion. Un chef-d'œuvre absolu, quelques années plus tard, plus tôt, je ne sais trop quelle importance. Drowning by Numbers dans 24 notes secondes. Thank you. pas cette manie de finir abruptement. Un extrait de la bande originale de Drowning by Numbers, un film de Peter Greenaway, 1988. Une musique de Michael Nyman, quelque part entre Schubert et les quatuors de Beethoven, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, vous l'avez entendu, ce que je veux dire. Notre émission, sinon, touche à sa fin, du moins, va vers son dernier extrait. Donc, on n'aura pas le temps d'évoquer l'ensemble de la carrière de Peter Greenaway, qui s'est poursuivi, se poursuit peut-être encore. J'avoue que je l'ignore. On est en 1942. Ben, l'homme n'est peut-être plus tout jeune, mais je suis bien certain qu'il est encore esthétiquement actif, si je puis dire. Après triple assassinat dans le Suffolk, bref, Drowning by Numbers, on verra le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, tout un programme déjà. On verra d'autres films de plus en plus confidentiels, il faut bien le reconnaître, dans lesquels on retrouve les mêmes obsessions picturales, puisque en 2007, il tournera La Ronde de Nuit, le nom d'un fameux tableau de Rembrandt. Et en 2008, Rembrandt, j'accuse. Alors j'avoue que je ne l'ai pas vu, mais finalement, ça donne envie. Mais on va se quitter en revenant dans cette épiphanie déjà évoquée, en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1991. Ça s'appelait Prospero's Books. Prospero, pour les lettrés d'entre vous, ils sont nombreux, je ne l'ignore pas. Eh bien, c'est le personnage principal, avec Caliban, de La Tempête de Shakespeare, une des dernières pièces, voire la dernière pièce signée par William Shakespeare, et certainement l'une de ses plus belles. Eh bien, à partir de cette pièce, Peter Greenaway a développé une sorte de méditation autour du personnage de Prospero, et il l'a développé d'autant plus brillamment que le dit personnage était interprété par John Gielgud, qui fut un des monuments, un de ces acteurs anglais qu'on adore, et qui ont traversé des dizaines d'années depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à à la toute fin du XXe siècle. La musique, eh bien, elle a dit, la photo déjà, après on parlera de la musique, elle était à nouveau signée de Sacha Vernier. La musique, vous l'avez compris, elle était à nouveau de Michael Nyman. Je vous laisse en sa compagnie, en espérant Peter Greenaway alive and well, dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.